Qui est Malcolm X?
Qui, what?
Who is Malcolm X?
Who is Malcolm X?
Malcolm X est un des plus grands êtres humains qui ait foulé le sol de la planète Terre. Il a vu ce qui se passait et il a essayé de montrer la voie de la libération. Ça fait de lui un activiste actif qui est dans l'action. Maintenant, tout le monde est activiste, mais ce ne sont que des mots, ils ne font rien.
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies.
I am Malcolm X.
Assalamu alaikum.
Malcolm X, Colère Noire. Romain Weber, Yvon Croisier. Cinquième épisode, longue vie à Malcolm.
On arrive au cimetière de Ferncliff. C'est à une vingtaine de kilomètres au nord d'Harlem, sur une commune qui s'appelle Hartsdale. C'est un très grand cimetière. Il a neigé hier. On est le 21 février 2025. Et c'est des grandes pelouses recouvertes de neige glacée. C'est un cimetière où il y a John Lennon, James Baldwin, Cab Calloway, Thelonious Monk qui est par là. Et pour trouver la tombe de Malcolm X, c'est pas très compliqué, il faut juste suivre les pas dans la neige. Il y a tout un attroupement là autour de la tombe. On s'approche, il y a une vingtaine, une trentaine de personnes qui font tourner un micro. Il y a quelqu'un qui tient une grosse enceinte pour que tout le monde entende bien. Il y a des hommes, des femmes, de toutes les couleurs de peau, d'âges différents. Moins 5 degrés, ressenti moins 10. Mais ça n'empêche pas ces gens de venir ce matin se recueillir sur la tombe de Malcolm X.
C'est la première fois que je viens.
In Arabic, the term shahid or martyr means the one who bears witness.
En arabe, shahid, martyr, c'est celui qui témoigne. Et je crois que notre frère Malcolm, dans les derniers moments de sa vie, portait un témoignage de plus en plus fort, jusqu'à ce jour terrible. La dernière chose que je voudrais dire, c'est soutenons-nous les uns les autres. On a besoin d'entraide pour survivre en ce moment. Faisons-nous cette promesse et honorons-la. On doit se soutenir pour résister. Bonjour. Je suis heureux d'être ici avec vous tous, ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus. Le travail de notre frère Malcolm X ne mourra jamais. Il se perpétue à travers nous. Aujourd'hui, je pense au sourire de Malcolm. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Et je pense qu'il sourirait s'il voyait l'état du monde actuel. Il ne serait pas surpris. Mais je crois qu'il sourirait aussi en voyant notre travail, à nous tous, qui sommes présents aujourd'hui.
Thank you.
C'est notre tradition de terminer avec une prière.
O compassionate one, O just one, O loving one, O graceful one, O creator of the heavens and the earth, the sustainer and maintainer of all life. We ask you on this glorious day, in this most blessed company, and this most sacred of places, to bless and elevate the souls of
Hello, my name is Alal,
and je m'appelle Alal.
It's been 60 years since Minister Malcolm X was
Malcolm X a été tué ici à New York il y a 60 ans. Cet homme est tout pour moi. J'ai appris son histoire et l'homme qu'il a été. Il est comme Martin Luther King, mais en différent. Ce qu'il fait, c'est qu'il se bat pour la liberté, pour l'égalité et pour la justice. Et il sait qu'il défend le mieux l'unité des Noirs aux États-Unis. Il a pris ce nom, El-Hajj Malik El-Shabazz, quand il a fait son Hajj en Arabie Saoudite, dans la ville de la Mecque. Et il a appris là-bas que tous les blancs américains n'étaient pas mauvais, mais qu'ils étaient des frères et des sœurs. À la Mecque, il a vu que ce n'était pas un pays de haine, mais de paix et d'amour. Cet homme croit en la paix. En tant que musulmans, de toutes les religions, nous croyons en la paix.
Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez un peu à Malcolm X ?
Oui, c'est vrai. Je ressemble beaucoup à Malcolm X. Ça m'inspire de lui ressembler. J'admire son look, sa couleur de cheveux, la couleur de sa barbe et ses lunettes aussi. Il a un beau style et un magnifique sourire. Et il aime faire des blagues et faire des discours pacifiques. Tout ce qu'il dit, c'est pour protéger et pour faire tout son possible pour aider la communauté.
Parce que là, vous êtes venu donc pour les 60 ans de sa mort au cimetière. Vous avez des lunettes un peu comme lui. Vous avez une barbe un peu comme lui. Vous avez une coupe de cheveux un petit peu comme lui. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est pour l'occasion ou vous êtes tout le temps comme ça?
It's usually sometimes, but I don't always do that, to be honest. I like coloring my hair sometimes.
Je le fais occasionnellement, pas toujours.
And red is pretty good. Brown too.
Mais j'aime me teindre les cheveux parfois. J'aime bien quand ils sont noirs et roux, châtains aussi. Et je me teins les cheveux correctement depuis peu. Pas tout le temps, parce qu'il y a des produits chimiques et ça me brûle la peau. Ça arrive aux autres aussi, ils ont des maladies de peau. Mais vous pouvez être sûr que je sais protéger ma peau.
Là, on a la plaque juste devant nous. Hajj Malik El-Shabazz, Malcolm X, 1925-1965. Il est enterré aussi avec sa femme, Betty Shabazz. Il y a des roses qui ont été posées sur la plaque. Il y a aussi une étoile de mer. Alors, expliquez-nous pourquoi il y a une étoile de mer sur cette plaque.
Honnêtement, je n'avais jamais vu ça. Je ne sais pas pourquoi il y a une étoile de mer, mais ça ressemble à un symbole musulman, le symbole de la Nation of Islam. C'est une lune et une étoile renversée. C'est aussi le drapeau de la Turquie, la bannière de l'islam. Et Malcolm X, lui aussi, est une étoile. C'est une vraie star.
Malcolm X and Dr. Betty Shabazz, we honor you. We always care for you.
tribute to the both of you.
I know he's gone, but he's not forgotten. I know he died. Just to set me free.
Malcolm X, quand il parle depuis Harlem et il parle aux Noirs américains. Medine, on est avec vous ici au Havre, Seine-Maritime. Vous êtes un rappeur, vous êtes une figure de ce qu'on appelle le rap conscient, le rap politique engagé. Vous êtes né au Havre. Qu'est-ce que Malcolm X a à dire à un Havrais?
Malcolm X, il ne parle pas qu'aux Noirs. Il parle aux opprimés. Il parle à ceux qui sont mis sur le côté, qui sont discriminés. C'est en ça que son discours fait lien avec la situation que l'on peut vivre à des années différentes et à des lieux différents. C'est en ça que ça fait lien et ça fait sens pour moi. C'est que le discours de l'émancipation de l'opprimé, de la revendication de son appartenance ethnique dans un contexte où justement tout est fait pour assimiler. À l'époque où moi j'écris, où je découvre la figure de Malcolm X, début 2000, on est dans une logique en France de dynamiter tout ce qui sort un peu la tête du la représentation nationale, tout ce qui dépasse un peu. Et je me mets à découvrir la figure de Malcolm X plus en profondeur.
Et alors, qu'est-ce qui dépassait chez vous?
Je pense que j'ai une barbe un peu trop longue. J'ai un patronyme qui est à consonance arabo-musulmane. Je vivais dans un quartier populaire. Je pense que j'avais voilà, une espèce de CV qui n'était pas compatible avec l'identité nationale.
Alors comment est-ce que vous le rencontrez? Comment est-ce qu'il s'établit le lien entre Malcolm X et vous?
C'est le film de Spike Lee, ni plus ni moins. Malcolm X, c'est Denzel Washington pour moi pendant longtemps. Donc c'est ma première rencontre avec Malcolm X, même si j'avais déjà vu le nom dans des clips de rap, notamment Public Enemy. Public Enemy, c'est un groupe de rap des années 80. Et voilà, moi je découvre le rap... Le rap politique des États-Unis, en tout cas des années 80-90, utilise beaucoup la figure de Malcolm X. C'est récurrent, en tout cas dans le discours, mais aussi dans l'iconographie. On voit le portrait de Malcolm X dans le clip. Je crois que c'est Fight the Power de Public Enemy. Et on voit le portrait, on voit des slogans, on voit des punchlines de Malcolm X cités, le fameux By Any Means Necessary. Et donc c'est voilà, c'est mes premiers contacts avec Malcolm X.
Gilles Kepel, vous qui êtes politologue, spécialiste du monde arabo-musulman, qui avez écrit sur la Nation of Islam et sur Malcolm X, vous écrivez dans votre livre, À l'Ouest d'Allah, que Malcolm X a eu trois vies. Une vie de gangster, une vie au sein de la Nation of Islam et une vie de musulman pieux avec le pèlerinage à la Mecque. Après sa mort, Malcolm X a peut-être une quatrième vie, celle de sa légende.
Malcolm X, je crois, aujourd'hui, est perçu d'une manière globalement positive, comme un modèle d'identification pour des jeunes issus de milieux défavorisés, et comme on dirait aujourd'hui, racisés, qui sont tombés dans la délinquance, qui, même dans la prison, ont une expérience de rédemption, de découverte, alors soit d'une religion qui se traduit en mobilisation sociale, et autres. Bon, il faut pas oublier aussi que Malcolm X, un an à peine après avoir quitté la Nation de l'Islam, a été assassiné.
Et dans cette légende-là, dans cette quatrième vie de Malcolm X, il y a au cœur de cette transmission de la mémoire, le film de Spike Lee en 1992, c'est-à-dire comment Hollywood s'empare d'une figure aussi importante pour les Afro-Américains. Vous parlez de marchandisation dans votre livre.
Mais c'est Hollywood a fait beaucoup d'argent avec ça. Et c'était un peu au cœur de la Nation de l'Islam. Il y avait à la fois la misère du ghetto, le retournement du stigmate, et puis la collecte de l'impôt révolutionnaire pour qui a enrichi les dirigeants, si vous voulez. Mais on voit bien comment ce personnage héroïsé et assassiné a été l'occasion de créer un blockbuster.
Et au même moment, dans ces années 90, il y a d'autres porteurs de mémoire de Malcolm X. Dans votre livre À l'Ouest d'Allah, Gilles Kepel, vous parlez de deux jeunes hommes qui fréquentent la mosquée de Harlem dans les années 80, qui sont deux jeunes rappeurs.
Oui, effectivement, qui utilisent justement le vocabulaire du rap pour le conscientiser d'une certaine façon. C'est quelque chose aujourd'hui qui, en France, est monnaie courante, mais qui, à l'époque, n'était pas encore très courant. Et l'un des raps, avait transformé quelque chose qui s'appelait « Fight for the right to party », c'est-à-dire « Battez-vous pour avoir le droit de faire la fête ». Et en party for the right to fight, c'est-à-dire organisez-vous pour avoir le droit de vous battre.
Vous vous souvenez du nom de ce groupe ?
Il est dans le livre, mais je l'ai oublié, je dois dire.
Dites-nous juste que c'est Public Enemy.
Oui, c'est ça, Public Enemy. Et puis voilà, c'est le groupe Public Enemy et Chuck D aussi.
Enfin, oui, c'est un des rappeurs de Public Enemy.
Voilà, c'est ça. Et moi, ma culture n'est pas très rap à mon âge en plus. Mais effectivement, j'avais même écouté, j'avais fait mon terrain très sérieusement, j'avais même écouté du rap.
Malcolm X, je pense qu'on pourrait faire un recueil de punchlines au-delà de l'autobiographie, au-delà du film ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a vraiment matière à collecter ces punchlines. C'est le style Malcolm X, c'est laconique, c'est lapidaire. Allez à l'essentiel. C'était l'une de ses phrases d'ailleurs. Make it plain, si je me souviens bien.
Quand les rappeurs samplent Malcolm X, ils prennent 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes de certains de ses discours et... Ce qu'il y a de particulier avec Malcolm X, c'est qu'il a plein de casquettes. C'est-à-dire qu'il a dit plein de choses et des choses très contradictoires. En fait, on lui fait dire aussi un peu tout ce qu'on veut à Malcolm X, non ?
Oui, mais c'est ce qui est intéressant dans ces personnages. C'est cette façon de se mouvoir en fonction du temps. Les extraits que j'emprunte à Malcolm X dans ma musique, justement, témoignent aussi de mon propre processus de changement. Et à chaque fois que je prenais un extrait de Malcolm X... On peut témoigner que oui, il s'agissait du Malcolm X plus conservateur. Et puis par la suite, l'album 10 ans plus tard, c'est le Malcolm X plus apaisé, pour finir avec un Malcolm X plus internationaliste. Bien sûr qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, mais le plus intéressant, c'est de voir la complexité de ce personnage, de comment il s'est contredit.
Mohamed Rouhabi, vous êtes écrivain, auteur de pièces de théâtre. Comment est-ce que vous avez découvert Malcolm X ?
Alors, comment j'ai découvert Malcolm X ? Vraiment, c'était je connaissais de nom la silhouette du tribun. Effectivement, il y avait quelque chose de commun à l'art du théâtre, à l'art de la scène. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose qui résonnait avec la situation ici en France. Évidemment, c'est pas la même chose, mais quand même, il y avait un ressenti qui était qu'on avait un État, un gouvernement, une police qui tenait aussi pour responsable une partie de la population en France, de tous les maux de la société. En gros, moi, j'habitais en banlieue. Et c'était tout le temps les flics, c'était tout le temps des difficultés pour trouver un logement, un travail décent. Et j'avais vraiment le sentiment qu'il s'adressait aussi à moi à travers le temps et l'espace. Et c'est ce qui a fait que ça m'a obsédé et j'ai voulu travailler de manière assez concrète dessus et essayer d'imaginer un spectacle où Malik Abdou-Shabazz serait là.
Où est-ce que vous l'avez joué cette pièce de théâtre, Mohamed Rouhabi ?
On l'a joué, partout. Je peux dire qu'on l'a joué partout. Et je vous avouerai que le souvenir le plus marquant pour moi, ça a été le Sénégal. Il y avait plus de 2000 personnes qui étaient là. J'étais plus au théâtre, j'avais vraiment l'impression que tout ce que je disais, c'était 40 ans en arrière. Il y avait un silence et des explosions quelquefois, des rires. Et j'ai senti que j'avais une grande responsabilité, que tout ce qui se disait, c'était pas moi, Mohamed Rouhabi, qui le disait, mais c'était une voix qui venait d'ailleurs et qui résonnait encore très très fort dans l'esprit et chez les Sénégalaises et Sénégalais qui étaient là et qui écoutaient.
Vous tenez, vous, personnellement, le rôle de Malcolm X ?
Oui. J'essaie pas de l'imiter, même si physiquement, voilà, on avait retrouvé les mêmes lunettes, j'avais le costume, etc. Il y avait la forme, mais il y avait le fond. Et il y avait surtout l'intention. Et j'ai pas eu besoin de construire quelque chose. J'avais déjà sa musique dans l'oreille. Il y avait le texte et c'était ça le plus important. C'était le texte qui me portait. Enfin, je crois que dans mon souvenir, personne ne m'a dit, tiens, c'est bizarre, tu n'es pas noir, tu joues le rôle d'un noir. Est-ce que c'est pas de l'usurpation? Est-ce que c'est pas machin? Mais il me semble que, si vous voulez, le spectacle, le discours, à ce moment-là, en France, était tellement fort. Enfin, d'un seul coup, ça transcendait, ça faisait disparaître le fait que je sois pas noir, que je sois pas américain, que je sois pas, etc. J'ai trouvé au Puce, il y a très longtemps de ça, j'avais acheté un des premiers samples qui avait été fait, No Sell Out. C'était, j'ai vu la tête de Malcolm X sur le disque. Ah, tout de suite, je l'ai acheté. Je pensais que c'était un discours, mais c'était pas un discours. C'était un morceau. Je crois que c'est vraiment dans les années 80. Un des premiers morceaux qui utilise un sample, et ça commence par la voix de Malcolm X.
Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies, Malcolm X. Malcolm X. No sellout. Malcolm X. No sellout.
Est-ce qu'il y a des choses à brûler Malcolm chez Malcolm X?
Oui, je pense. Je pense que lui-même a brûlé certaines de ses idées qui étaient radicales.
Medine, rappeur.
Il y avait de l'antisémitisme chez Malcolm X. Il a fini en fait par dénoncer cet antisémitisme-là. C'est important en fait de voir comment un personnage peut, à l'instant T, avoir des postures et puis finir par être totalement en opposition avec les postures qu'il a pu avoir. C'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de questionner mes propres idoles, de me questionner moi-même et de peut-être même de brûler ces idoles pour revenir à quelque chose de plus serein et de plus rationnel.
Il y a de l'antisémitisme chez Malcolm X, il y a aussi du racisme. Pendant 12 ans, au sein de la Nation of Islam, il dit que c'est son mantra, tous les blancs sont des démons.
Mais il faut l'inscrire dans son contexte, en fait. Il ne faut absolument pas en fait, décontextualiser cette partie de Malcolm X qui a existé, qui a certainement ses raisons et son explication. Il faut rappeler la violence avec laquelle Malcolm X rentre dans cette vie. Mais des années plus tard, on voit quelqu'un qui arrive à fraterniser avec les mouvements de lutte et d'émancipation pour les droits civiques et qui internationalise son combat au point même de fraterniser avec le monde arabe, le Canada, ses multiples voyages en Algérie. On voit quelqu'un en fait qui dépasse ses propres prisons, ses propres enfermements dans le but d'une justice sociale, d'une justice humaniste. C'est ça le plus important. Ça n'est pas forcément d'où il part, c'est surtout où est-ce qu'il voulait aller et où est-ce que ça s'est arrêté à ce moment-là.
Et ça s'est arrêté comment ?
Ça s'est arrêté violemment pour Malcolm X. C'est un assassinat. parce que son discours dérangeait. Donc c'est un arrêt violent au moment où est-ce qu'il était justement le plus transversal. C'est ça le plus dramatique selon moi, c'est peut-être qu'on était à l'aube de quelque chose, à la naissance de la convergence des luttes justement. On était peut-être à la naissance de ça, et je crois que c'est cette convergence des luttes qui dérange le plus souvent la classe dominante. Et il faut absolument éradiquer les figures qui incarnent cette convergence.
Vous êtes venu nous chercher à la gare de New Haven, Wadada Leo Smith. New Haven, c'est à 2 heures au nord de New York, sur la côte. Vous êtes musicien, vous avez composé un album sur le mouvement des droits civiques qui s'appelle Ten Freedom Summers. Vous jouez de la trompette. Vous êtes né en 41 dans le Mississippi. Est-ce que vous l'avez déjà vu parler, Malcolm X ?
Non.
I was in the army when Malcolm X was killed. Mais j'étais à l'armée quand Malcolm X a été tué.
But you see, you don't have to go to New York.
Mais vous voyez, on n'est pas obligé d'aller à New York pour faire partie du voyage de Malcolm X.
He has no home.
Il n'a pas de maison.
Everywhere is his home.
Sa maison, c'est partout.
When he talks about liberation, he doesn't talk
about. Quand il parle de libération, il ne parle pas que d'ici, en Amérique.
He's talking about in Russia. He's talking about in France.
Il parle de partout. Il parle de la Russie. Il parle de la France, de l'Allemagne, du Zaïre, d'Accra, au Ghana. Il parle de la libération des peuples qui ont été supprimés. La libération afro-américaine slash noire est le mouvement le plus profond de liberté et de justice que cette planète ait porté. Elle a pris beaucoup de détours parce qu'elle est faite avec amour et pas avec des armes. Des détours, des trahisons, des promesses non tenues. Mais elle continue. Toujours tout droit.
Martin Luther King said it on his last vocalization.
Martin Luther King a dit la dernière fois qu'il a parlé à Memphis. J'ai vu l'autre côté. Il avait vu où on allait sur cette planète. Pas seulement nous, les Américains, mais tous ceux qui se battent pour la liberté et la justice. Il a vu l'autre côté. Et il a prédit qu'on y parviendrait. Donc, pour penser à Malcolm X, je n'ai pas besoin d'aller chez lui, même si je n'avais jamais entendu sa voix, si je le lisais, si quelqu'un me parlait de lui, ou si je rêvais de lui, ce serait la même chose.
Vous rêvez de Malcolm X ?
Je ne veux pas aller sur ce terrain. Mais oui, j'ai déjà rêvé de Malcolm X.
Wadada Leo Smith, il vous arrive de rêver de Malcolm X. Vous avez votre trompette à côté de vous. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce rêve, mais avec votre trompette.
Thank you. Naja Zegbe Johnson. Vous nous recevez ici dans une école d'architecture à Harlem. Vous enseignez la science politique ici et vous avez écrit ce livre qui s'appelle Mapping Malcolm, en fait, qui est une somme de contributions, d'une quinzaine de contributions. Il y a des comédiens, des journalistes, des activistes qui ont raconté leur Malcolm X. C'est quoi la place des artistes, des musiciens, des écrivains dans la mémoire de Malcolm X après 1965, l'année de sa mort?
So, you know, it's far more complicated than this, but I think about.
Je pense à la diversité des gens. Je ne les connais pas pour la plupart, évidemment, mais qui étaient là quand Malcolm a été assassiné. L'un d'entre eux, Larry Neal, était écrivain et critique d'art. Avec Amiri Baraka, c'est l'un des fondateurs du Black Art Movement. Et pour certains, à Harlem, la réponse à la mort de Malcolm, ça a été l'art. Juste après l'assassinat, Larry Neal et d'autres se sont réunis et ont créé le théâtre du répertoire des arts noirs à Harlem et d'autres endroits qui transformaient leur peine en art pour la vie des Noirs. Et en 1968, les Black Studies sont devenus une discipline académique aux États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si c'est arrivé après les martyrs de Malcolm X et de Martin Luther King. Moi, je nous vois avec beaucoup de mes semblables comme les bénéficiaires de ces traditions. Je suis la petite fille de cette génération.
It is always in conversation.
Et nous sommes toujours en dialogue avec les mots et la vision du monde de Malcolm.
Est-ce qu'il y a des poèmes qui vous viennent à l'esprit, particulièrement dans ce que les artistes ont fait de Malcolm X après sa mort?
Je cherche mon téléphone. Je ne me souviens pas de tout par cœur. Mais il y a un poème célèbre d'Amiri Baraka.
Black Arts.
Black Arts.
And it's really long and it's
Il est très
beautiful,
long et très
but
beau.
It ends like this.
Et il se termine
We
comme
want
ça.
A black poem and a
Nous
black
voulons
world.
Un poème noir et un monde noir. Que le monde soit un poème noir et que tous les Noirs parlent ce poème, loud. Tout bas ou tout haut.
We want a black poem and a black world. Let the world be a black poem. And let all black people speak this poem silently or aloud.
Wadada Leo Smith, je mets une photo devant vous, avril 1964. Pourquoi Malcolm X part en Égypte et va sur cette photo voir les pyramides?
Il est allé en Égypte parce que l'Égypte a 6000 ans d'histoire. Ça remonte au roi Ménès. Bob Marley disait pareil. 6000 ans d'histoire noire ne peuvent pas être balayés aussi facilement. C'est bien plus vieux que l'Europe ou d'autres endroits.
America.
Que l'Amérique.
That pyramid,
cette pyramide
it represents knowledge.
Représente la connaissance.
It's hard, concrete,
c'est de la connaissance à l'état pur.
That was in tomb,
ce tombeau qui ne serait déplacé ni par l'âge, ni par le temps, ni par l'érosion.
The pyramid also represent a way
Les pyramides représentent aussi une façon de penser. Elles ont trois côtés.
In terms of, figuring out stuff, if you can
si on le voit au figuré,
c'est
comme une équation où, quand vous additionnez deux problèmes, le troisième tombe de lui-même. Les pyramides sont parmi les plus anciens objets sur cette planète.
Elles
ne sont pas venues de l'espace, comme certains prétendent, en voulant dire que les Africains sont inférieurs et qu'ils n'auraient pas pu construire ça, c'est des conneries. Non. Dans l'espace, Il n'y a pas de pyramides et de formes comme ça. C'est les humains qui font ça. Ça n'existe pas ailleurs. Regardez cette photo. Sa tête et ses épaules sont à la hauteur des pyramides. Je vais vous jouer un extrait de mon album « Song for Humanity ».
To Malcolm X, because I see him as a humanitarian.
Et je le dédie à Malcolm X, parce que je le vois avant tout comme un humanitaire.
Dans mon livre, j'ai mis un poème que mon père a écrit en prison. C'est sur mon téléphone.
Okay, here it is. It's called That Black Musician.
Ça s'appelle Ce musicien noir.
Blowing sounds he's never thought of before.
Il prend son instrument et souffle ces sons auxquels il n'avait jamais pensé. Il improvise. Il crée. Ça vient de l'intérieur. C'est son âme. C'est la musique de son âme. C'est le seul domaine en Amérique où l'homme noir est libre de créer. Et il excelle. Il montre qu'il peut faire quelque chose que personne n'a jamais fait avant. Qu'il peut faire de même pour son indépendance. Il peut créer une nouvelle philosophie. Inventer une nouvelle société. Créer un ordre social différent de tout ce qui existe et qui n'ait jamais existé.
Est-ce que vous vous souvenez, il y a Sacha Baze, vous êtes la troisième fille de Malcolm X, vous êtes née en 1962, du moment où vous avez compris que vous alliez devoir partager votre père avec le monde.
Yes. And I never had any problems with it. I thought it was beautiful that people loved Malcolm.
Et ça ne m'a jamais posé problème.
What was challenging for me is
je trouve ça beau que les gens aiment Malcolm.
That many people had of him was inaccurate and it was a false.
Ce qui a été compliqué, c'est que beaucoup ont de lui une image qui est fausse.
You know, one of the reasons why I done the work that I've done.
Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait tout ce travail et toute ma carrière.
You know, listen, I'm now old enough to be his mother.
Vous savez, j'ai maintenant l'âge d'être sa mère. Mon père était tellement jeune, il n'avait pas 30 ans quand le monde a rencontré Malcolm X, et il en avait 39 quand il a été abattu. Parfois, je regarde cet homme comme mon père, j'aime qui il est. J'aime tout ce qu'il a donné. Parce que c'est un homme brillant et il aurait pu garder ça pour lui et sa famille et simplement devenir riche quelque part. Mais il a choisi de partager sa sagesse. Quand je parle de mon père, ça dépend du sujet. Si je parle de lui comme un membre de ma famille, je dis « mon formidable père ». Je le regarde. Parfois, il me fait rire. Donc, je l'appelle aussi Malcolm, Malcolm X, papa, dad, mon père. Ça change selon ce dont je parle et la façon dont je veux décrire l'homme exceptionnel qu'il était.
21 février 2025, Shabazz Center, cérémonie du 60e anniversaire de la mort de Malcolm X.
En novembre dernier, il y a Sacha Baz, vous avez annoncé avec un avocat qui s'appelle Ben Crump, le dépôt d'une plainte qui accuse le FBI, la CIA et la police de New York de complicité dans l'assassinat de Malcolm X. Est-ce que vous avez de nouvelles preuves à apporter à la justice?
Well, yeah, they're evident. We've shared the evidence, and there are individuals
oui, on a publié les preuves.
Complicit.
Et il y a des personnes qui étaient complices. Il y a des témoins.
The good thing is that we've turned these over to the court.
Nous avons apporté ça au parquet.
Awaiting,
et maintenant,
a result now.
On attend les résultats.
Combien d'indemnités est-ce que vous demandez au gouvernement fédéral?
I don't know that there's really a price.
Je ne sais pas s'il y a un prix pour ça.
But it is $100 million.
Mais c'est 100 millions de dollars.
Qui est-ce qui a tué votre père, il y a Sacha Baz, le 21 février 1965?
There are many entities. You know, Malcolm challenged.
Il y a beaucoup de parties prenantes.
A government that was historically unjust.
Malcolm défie un gouvernement qui a toujours été injuste contre son propre peuple.
Might be great for Ben Crump.
Mais je crois que c'est une question qu'il faudrait poser à notre avocat Ben Crump.
Allez, pour vous, grand peuple noir.
Ben Crump, avocat de la famille Shabazz.
En ce jour historique,
60 ans de la mort de Malcolm X,
nous avons parlé de notre poursuite judiciaire pour que justice soit faite. 60 ans de combat pour découvrir la vérité. Et ceux qui ont conspiré pour tuer Malcolm X et qui ont couvert son assassinat. On attaque la police de New York, le FBI, la CIA et le ministère de la Justice. Et nous avons formellement demandé au président de déclassifier le dossier Malcolm X une fois pour toutes. Le président a exigé la déclassification du dossier de John Kennedy, du sénateur Robert Kennedy et du révérend Martin Luther King. Et aujourd'hui, nous lui disons, s'il veut la vérité sur John Kennedy, sur Robert Kennedy et sur Martin Luther King, pourquoi est-ce qu'il ne déclassifie pas le dossier Malcolm X une fois pour toutes ? pour qu'on connaisse la vérité et que justice soit faite 60 ans après. Parce que la justice a du retard. Merci. Dieu vous bénisse par tous les moyens nécessaires.
Jaya, tu as 14 ans. Hier, on était le 21 février 2025, jour des 60 ans de la mort de Malcolm X, et au collège, il y a une de tes camarades qui a fait une présentation sur Malcolm X. Tu nous racontes ce moment ?
Mm-hmm. So basically, there were projects about very important.
Il y avait des exposés sur des personnalités importantes de l'histoire noire.
Et
une de mes amies a fait Malcolm X. Et quand elle a dit la date de son assassinat, toute la classe s'est figée. Parce qu'on ne savait pas qu'il avait été assassiné un 21 février, qui était hier. La classe était choquée parce que les professeurs ne s'intéressent pas à des personnalités comme Malcolm X. On a tous fait une minute de silence en son honneur. Et quand on y pense, personne n'est au courant de l'influence qu'il a eue sur les jeunes noirs, comme moi, ma mère, mon grand-père ou ma sœur.
Belle, toi tu as 11 ans. Est-ce que toi, tu en sais un peu plus sur Malcolm X ?
On n'en a pas beaucoup entendu parler parce que les gens pensent qu'il est violent ou que c'est un mauvais exemple, qu'il n'était pas pacifique. Il parlait de protection et d'autodéfense. C'est ce que mes parents m'ont appris. Si quelqu'un te touche, tu répliques. Il n'a pas incité les gens d'aujourd'hui à être violents. Si quelqu'un est violent, c'est son choix. Mais je pense que Malcolm X était pacifique à sa façon. Il parlait de protection et de self-défense. Et les gens devraient s'en inspirer parce que les adultes sont de plus en plus violents et empiètent sur l'espace des autres.
And you see Martin Luther King, like he's the one that ended up becoming more popular because he was more peaceful.
Martin Luther King est devenu plus populaire parce qu'il était plus pacifique. Il y en a qui disent prudent. Il était prudent pour les autres et ils veulent que les gens s'inspirent de lui. Malcolm X, il est nulle part. Alors qu'à la fin de sa vie, il était plutôt d'accord avec Martin Luther King. Mais c'est pas ça qu'on voit. On n'a que le point de vue de la société. Qu'il était violent et dangereux. Il incite à la violence, donc il n'est pas pacifique. Il était pacifique, mais à sa façon. Il était pour le self-défense, pour que les gens soient en sécurité et qu'on reprenne la liberté qu'on nous a prise. Ça, c'est Malcolm X.
En fait, c'est ma façon d'appréhender Malcolm X qui a changé.
Medine.
Les sujets n'ont pas changé, les sujets se sont exacerbés, la question raciale est de plus en plus présente. Donc je pense que le contexte n'a pas vraiment changé, mais c'est ma façon de percevoir Malcolm X. Et je convoque sa figure pas pour les mêmes raisons qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, j'avais besoin d'une figure providentielle, de quelqu'un qui était plus fort que moi, plus fort que mon environnement social, et qui avait vécu des choses beaucoup plus violentes que moi, et qui pourtant gardait espoir, se tenait debout face à l'adversité. J'avais besoin de ça pour me construire individuellement, comme tous les adolescents convoquent des figures, je pense, providentielles ou des figures publiques pour pouvoir se construire. j'ai plus besoin de me construire avec Malcolm X. Aujourd'hui, j'ai besoin de la lutte de Malcolm X, du dernier tiers de sa vie, de comprendre pourquoi il envisageait cette internationalisation de la lutte, comment les diasporas afro-américaines, les diasporas noires, pouvaient se réunir pour dépasser leurs conditions, dans un moment où la question raciale est centrale. C'est de ce Malcolm X-là dont j'ai besoin. Pas celui qu'on nous vend, qu'on nous met sur des casquettes, sur des t-shirts. J'ai besoin du Malcolm X du dernier tiers de sa vie.
Il commence quand, le dernier tiers de sa vie ?
Il commence à sa rupture avec la Nation of Islam, selon moi. Quand tu es capable, en fait, de t'émanciper de tes idéologies, de t'émanciper de ton environnement, par devenir même le critique, pour moi, c'est une vraie bascule à ce moment-là dans son parcours de vie, pleine d'enseignements, et ça commence là, le dernier tiers.
Depuis ma rupture avec la Nation, j'en suis venu à me poser tout un tas de questions. Mais en fait, vous allez lire mieux que moi.
Le flow était bon. Depuis ma rupture avec la Nation, j'en suis venu à me poser tout un tas de questions. Le genre de questions sur le sens de ma mission. Et si les Blancs n'étaient pas tous des démons? Je sais pertinemment où ces idées me conduiront, vers une mort certaine ou en erreur elles m'induiront. Et peu importe désormais où j'irai, parsemés d'embûches sont les chemins de la vérité. Tu vois, même moi, j'ai fourché.
C'était en 2005, Medine, que vous avez écrit ce morceau sur Malcolm X. Comment est-ce qu'il s'appelle ?
Ça s'appelle « Du Panchir à Harlem ». C'est en 2005, effectivement.
Ça vous dit de nous le faire ?
Ouais, avec plaisir. Mais ça va être approximatif après 20 ans. Un, deux, check, check, check. Hey. Ok. J'en ai passé des soirées comme celle-ci à décrocher. Le téléphone incessant qui menace de me tuer. 3 décennies et 9 années sur la terre. Je repense à mon parcours et ma descente aux enfers. Récemment, ils s'en sont pris à ma famille. Alors je vis séparément de ma femme et mes filles. Logé dans un hôtel au cœur de Manhattan. J'attends patiemment comme le font les montagnes. 1965 fut l'année de l'aveugle qui voit, mais le martyr a sonné. Je le sais plus que tout désormais que je serai mort avant de voir mon peuple en paix. Ces deux familles de mourir violemment, mon père et ses frères, et à mon tour maintenant, j'aurais tenté de laisser un monde meilleur, plus de justice pour les gens de couleur. De retour du berceau de l'humanité, un pèlerinage nécessaire qui m'a rendu mon humanité. L'immunité de l'afro-américain qui combat pour ses frères à la recherche du bien. Depuis ma rupture avec la Nation, j'en suis venu à me poser tout un tas de questions. Le genre de questions sur le sens de ma mission. Et si les Blancs n'étaient pas tous des démons, je sais pertinemment où ces idées me conduiront, vers une mort certaine ou en erreur elles m'induiront. Et peu importe désormais où j'irai, parsemés d'embûches sont les chemins de la vérité. Et les médias m'assimileront à la haine, le noir énervé au moindre mouvement des gaines. Précurseur du soulèvement des ghettos et responsable incontesté des émeutes à Soweto. Comprenez-moi, les Blancs ont brisé ma vie, assassiné mon paternel et démantelé ma famille. Des familles d'accueil au redressement dans des maisons, de l'escroc d'Harlem jusqu'à la casse-prison. Tout est de façon pour que le noir échoue, des illusions comme de faire croire que nous sommes nés dans des choux. Alors je vis chaque jour comme le dernier et spécule sur mon propre décès dimanche. 21e jour de février, je me rends à l'eau du bon ballroom sans me faire prier. Le public m'attend alors, je me presse, une série de rendez-vous dominicales sans la presse. Je retrouve mon équipe dans les coulisses, le révérend sera absent mais mon assistant novice le remplacera le temps d'un discours, le temps qu'on vérifie les portes de secours. Ces derniers temps j'ai fait office de lampe torche pour éclairer mon peuple sorti la langue de ma poche. Mais je sais bien qui complote autour des moi, en plus des anciens co-religionnaires, ça pue la CIA. Au 10e rang, c'est la cohue, arrête de fouiller dans ma poche. Tu crois que je t'ai pas vu ? Calmez-vous mes frères, soyez disciplinés, reprenez votre place, que l'on puisse continuer. J'allais poursuivre, mais j'aperçois un homme armé, je crois que c'est un noir. Ils sont plusieurs à s'énerver, saisissant les événements, un dernier sourire assez noir. Assassiné par ses frères, fut la panthère noire.
Herb Boyd, journaliste et biographe de Malcolm X.
Son héritage est partout, où qu'on regarde. C'est le centenaire de sa naissance. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de Malcolm? Parce que Malcolm parle de nous. Et avec beaucoup de gravité. Tellement de gravité que sa mémoire résonne.
Almost not a day passes over the last couple of years, in particular, that in some way
his Il n'y a pas un jour qui passe, particulièrement ces dernières années, sans qu'on voit sa photo et son nom dans la presse, à la télévision, au cinéma ou ailleurs.
Almost like a living memory.
C'est presque une mémoire vivante.
He's ever with us. Because he made such a significant presence.
Il reste parce qu'il a tellement compté quand il était parmi nous. C'est indélébile.
It's there forever, and it's
c'est là pour toujours.
For us to find ways
et c'est à nous de trouver
that.
La façon de perpétuer
you
know,
sa you mémoire.
On picore ici et là. Un chanteur, un morceau, une mélodie, un réalisateur. Une photo.
There's a whole spread of panoramic aspects of his life that needs to be brought together.
Il y a tout ce panorama de sa vie qu'il faut recomposer.
But you know, you find ways
c'est ce qu'on fait.
To kind of reinvigorate, to rejuvenate.
On trouve des moyens de redonner de la jeunesse.
A fresh veneer
un nouvel éclat à l'héritage de Malcolm.
I think that's the challenge we face.
Je crois que c'est notre défi.
You know, Malcolm is kind of frozen in time. But we can thaw out
Malcolm est figé dans le temps, mais on peut réanimer son héritage
and make it live again.
Et le faire revivre.
Long live Malcolm.
Longue vie à Malcolm.
Longue vie à Malcolm. Avec Wadada Leo Smith, Medine, Gilles Kepel, Ilyasa Shabazz, Naja Zigby Johnson, Mohamed Rouabi, Jaya et Bell et Herb Boyd. Vous avez entendu les voix de Prudence Castelot, Pauline Ziadé, Bonnie Charles, Myriam Ajar et Anne de Peufeyou, enregistrées par Nadège Antonini et Claire Levasseur. Merci à Sadri Chiari, à Michael Mailleux au CEM du Havre, au groupe d'étudiants d'Abdulrahman Malik au cimetière de Ferncliff et à Ikram Ayata. Responsable éditorial Emmanuel Laurentin, coordination Christine Bernard, chargée de programme Anne-Vanessa Prévost, Malcolm X, Colère Noire, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.